Et bonjour à vous, Arnaud Rioux.
Bonjour.
Comment allez-vous en ce retour de vacances? Est-ce que vous avez eu le temps de faire le point sur votre propre vie?
Ah, le point, je le fais régulièrement, mais je le fais dans la détente et tout au long de l'année. Je me pose toujours la question de savoir si je suis bien sur ma route. Et jusqu'à présent, ça me dit oui.
Oui, mais est-ce que vous êtes de ceux qui prennent des résolutions à cette étape-là de l'année?
Non, pas particulièrement. Ça, les résolutions, elles s'imposent en général naturellement. C'est-à-dire que dès lors que moi, je me sens en lien avec moi, les bonnes résolutions se prennent naturellement, mais tout au long de l'année, pas particulièrement à la rentrée.
Qu'est-ce que c'est qu'une bonne résolution pour vous, par exemple? Quelle est parmi celles que vous avez prises dernièrement?
Une bonne résolution, qu'est-ce que ça pourrait être une bonne résolution? Puisqu'on va parler de la relation parent-enfant, ça pourrait être, tiens, et si je consacrais un peu plus de vigilance ou d'attention à la relation que je porte à mes enfants? Ça pourrait être une résolution.
Oui. Et vous en parlez avec eux de ça, de la difficulté à réserver du temps
avec les parents,
avec les enfants, avec vos enfants.
Avec mes enfants, avec ma fille, oui,
avec
oui,
votre fille.
On en parle beaucoup. Dernièrement, il y a une journaliste qui est venue à la maison pour faire une interview sur le livre. Et on parlait pendant trois quarts d'heure. On a eu une belle conversation en vue d'une émission. Et au bout de la conversation, il y a ma fille qui est arrivée en disant « Tu t'occupes pas de moi !» Alors c'était vraiment le décalage. C'est-à-dire que tout le temps, on a la possibilité de savoir qu'est-ce qu'on veut privilégier et est-ce que la relation à nos enfants, est-ce qu'on est prêt à y consacrer du temps, hein? De mon côté, quand on consacre du temps à la relation avec son enfant, c'est vraiment un des meilleurs investissements qu'on peut faire dans sa vie en tant que parent, ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
Elle a quel âge aujourd'hui, votre fille ?
Maintenant, elle a 10 ans et rentre au collège vendredi. Alors, ça change complètement, puisque la rentrée au collège, c'est d'autres repères, c'est d'autres... Et curieusement, avant même qu'elle ait franchi la porte du collège, déjà, son inconscient sait qu'il va se passer quelque chose, que ça ne va pas être les mêmes rapports, notamment dans la relation garçon-fille, parce que avant le collège, c'est beaucoup les garçons qui jouent entre eux et les filles entre elles. Et dès qu'on pousse la porte du collège, ça y est, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la rencontre. Et ça, curieusement, inconsciemment, les enfants le sentent, le savent et commencent à en parler entre eux. Et quand ça se passe bien, on parle aussi avec leurs parents.
Qu'est-ce qu'elle vous a posé comme question à l'occasion de ce changement dans sa vie d'enfant ?
Plus que des questions, c'est l'inquiétude qu'elle pourrait avoir. Est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que ça va être si différent que ça ? Et si ça ne se passe pas bien, comment ça va être ? Et comment je vais faire ? Est-ce que les gens vont me... Une question qui m'a frappé, c'est s'il y a beaucoup de monde, est-ce que les gens se souviendront de mon prénom ? Et ça, c'est une question qu'elle m'a posée, qui m'a vraiment attiré l'attention sur le besoin qu'ont les enfants d'être identifié à part entière comme un individu avant d'être un élève ou le membre d'un groupe, mais d'être reconnu pour ce qu'on est. Et ça passe par le prénom, le visage et le prénom. Et déjà, quand un enseignant appelle son enfant par son prénom, ça change tout.
Et quand notre enfant, votre enfant en l'occurrence, pose ce genre de questions fondamentales, existentielles, hein, à son niveau, c'est existentiel ce qu'elle demande, quel est le rôle de son parent? Parce que certains parents font « bah, 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 tu verras, c'est pas si grave ». D'autres font « Ah là là, oui, là les choses sérieuses commencent ». Vous voyez le genre. Qu'il attend l'enfant en fait? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre?
Souvent, ce qu'il attend, c'est pas ce qu'il demande. C'est-à-dire que quand l'enfant demande s'il va y avoir beaucoup plus de devoirs cette année, il ne fait pas que poser une question, il pose une inquiétude. Et dans cette inquiétude, il y a au moins deux choses. Est-ce que moi je vais être à la hauteur en tant qu'enfant? Ça, c'est la question qui se pose. Et est-ce que le lien avec toi en tant que parent va être maintenu? Et ça, ce sont les deux choses dont l'enfant a vraiment besoin. Maintenir le lien. Et c'est pour ça que si on répond trop vite uniquement à la question, on peut être sûr qu'il y a une autre question qui va suivre immédiatement après. Et si jamais on va à la piscine, est-ce qu'il va se passer ça? Et si? Et dans ces moments-là, c'est, enfin, moi en tout cas en tant que parent, quand je sens qu'il y a une inquiétude, je me prends le temps de me poser avec elle et rien que dans l'attitude de maintenir moi une attitude apaisée. Et comme ça, elle s'apaise elle-même en miroir, et si elle-même elle s'apaise, elle trouve elle-même la réponse aux questions qui peuvent la préoccuper.
Mais ça veut dire que vous acceptez, vous, éventuellement, ou que le parent en face accepte d'être momentanément peut-être déstabilisé, parce qu'on sait très bien que les conseils qu'on donne ou les réponses toutes faites, elles sont là pour nous rassurer, nous, et pas tellement rassurer les enfants. C'est bien connu, cette histoire.
Oui, tout le temps déstabilisé. Le temps. Et curieusement, dans l'acceptation de cette déstabilisation, il y a un sentiment de sécurité qui naît. Si on accepte, en tout cas si moi j'accepte toutes les choses sur lesquelles je suis impuissant, toutes les choses sur lesquelles je ne peux rien, c'est-à-dire comment ça va se passer pour elle en maths, bah oui, je pourrais l'aider un peu le soir, mais profondément c'est sa vie à elle, et il y a un endroit où assez vite ça nous échappe. Et en tant que parent, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et si on accepte notre impuissance, curieusement, c'est de la reconnaissance de nos limites que naît notre sentiment de sécurité.
Mais c'est justement ce que nous ne voulons pas, reconnaître notre impuissance. J'ai le sentiment qu'en arrière-plan, en tant qu'adultes, nous avons passé un temps fou à nous construire pour pouvoir répondre, faire face, être à la hauteur, ne pas être pris au dépourvu. Déjà comme l'homme des cavernes, hein, en fait. On veut prévoir, en fait, et on veut contrôler. Et c'est ça qui est difficile par rapport à nos enfants, je trouve. C'est d'accepter.
Bah oui. Parce qu'on veut se rassurer.
Ce doute.
La vie, c'est un mystère, toujours un mystère à explorer. Et dès lors qu'on accepte de vivre complètement, eh ben, on est toujours dans le doute, non, parce qu'il y a une confiance qui naît, mais il y a un mystère. Et le mystère, il est là sur les questions existentielles, il est là sur quel métier on fera quand on a 13 ans et qu'on se pose la question « qu'est-ce que je ferai comme métier demain ?» Bah, on n'en sait rien, en fait. Et on peut vivre en acceptant, en cohabitant avec le mystère. Et de cette cohabitation avec le mystère que naît notre sentiment de sécurité.
Arnaud Rioux, ça, c'est une vision du monde. Parce qu'en fait, quand vous dites cohabiter avec le doute, vivre avec le doute, c'est ça la vie, c'est votre vision. Il me semble qu'on passe beaucoup de temps et d'énergie à disqualifier le doute et à essayer de l'empêcher de s'imprimer en nous.
Oui, moi-même, j'ai passé beaucoup de temps à tout vouloir comprendre.
En tant que consultant et coach, je suis sûre que vous avez essayé de trouver des réponses.
J'ai voulu trouver des réponses.
Qui marchent pour tout le monde.
Qui marchaient quand les gens venaient me voir. Je me disais, il faut qu'à la fin de la séance, ils aillent bien, ils aillent mieux. Et puis, simplement, j'ai appris deux choses. La première, c'est que on ne peut céder que soi-même, hein, c'est vraiment la chose la plus importante, on ne peut céder que soi-même quand on a envie de bouger. Et la deuxième, c'est qu'il y a une grande sécurité qui naît de notre acceptation de vivre avec le mystère. Et quand on vit avec le mystère, parce que le monde est plein de mystères, à ce moment-là, on peut aussi se sentir en sécurité, c'est pas du tout incompatible.
Mmh. Quelle serait votre définition à vous de l'éducation, puisqu'on va parler de qu'est-ce que nous avons à communiquer et qu'est-ce que c'est que éduquer, vous préférez le mot accompagner un enfant. On va parler de ça évidemment tout au long de cette conversation. Quelle est votre définition à vous?
C'est vraiment une présence qui pour moi doit être rassurante, parce que l'enfant se pose plein de questions et dans le doute, et il a besoin que son père ou sa mère puisse être un élément rassurant, comme une référence rassurante, mais surtout pas quelqu'un qui nie fait à sa place, parce que ça c'est très blessant, ni quelqu'un qui décide pour lui, mais quelqu'un qui puisse être comme un phare dans l'océan, comme un guide, qui puisse par son expérience et par sa congruence, par sa cohérence, servir d'exemple, de façon à ce que l'enfant puisse suivre son père ou sa mère en disant « voilà, je vois un adulte qui a l'air heureux, qui a l'air épanoui, j'ai envie d'être moi aussi dans cette... un élément de réponse qui sert comme un guide, comme un phare. » C'est vraiment comme ça que je vois les choses.
Heureusement que l'on n'a pas cette exigence à l'instant où on fait un enfant, parce qu'on n'en ferait pas, franchement. Parce qu'être un phare sur le chemin, un repère sécurisant, quelqu'un de congruent, enfin... Je veux dire, on met un temps fou à y essayer un tout petit peu. Parfois, on n'y arrivera jamais.
C'est le travail d'une vie.
Quand on fait un enfant, est-ce qu'on a ça présent à l'esprit, franchement?
Peut-être que sinon, on ne le ferait pas.
Oui, c'est ça. Hein.
Et curieusement, moi, je suis surpris de la rapidité quand je vois les parents qui, bien souvent, n'ont pas d'enfant ou sont sur le point d'avoir un enfant. Et d'un seul coup, c'est la panique. Comment je vais faire pour l'éduquer? Comment je vais faire? Est-ce que je vais savoir comment lui donner à manger? Il y a vraiment une panique souvent pour les parents juste avant que l'enfant vienne au monde. Et à partir du moment où l'enfant est là, quelques jours ou quelques semaines après, les parents, d'un coup, peut-être pour se rassurer, se blindent de certitude en disant « voilà, pour faire comme ça, il faut passer par là, pour faire comme ci, il faut passer par là ». Et en faisant ça, il y a une urgence de se dire « il faut qu'on sache, parce qu'il faut qu'on aide nos enfants ». Et pour moi, cette aide qu'on peut donner à nos enfants passe aussi par le fait d'accepter de partager du doute avec eux. Mais c'est vrai que si on était conscient de tout ce que demande l'accompagnement d'un enfant, peut-être on serait moins nombreux à en faire ou on en ferait moins.
Déjà qu'on n'en fait plus beaucoup dans nos pays, franchement. Peut-être justement parce qu'on trouve ça compliqué ou qu'on en est devenu plus égoïste, je ne sais pas.
Alors, je sais pas. Moi, je sais pas si je suis un bon exemple pour ça, parce que je suis 7e enfant d'une famille de 8 et j'ai une fille et je pense que je n'en aurai pas d'autres.
Ah.
Et quand, oui, d'une famille de 8, je suis devenu à une famille avec un enfant. Et à la fois, ça naît quand j'ai pris conscience de tout ce que demandait un enfant comme disponibilité, comme temps, comme énergie. Et je me dis, mais comment les parents... Alors, peut-être, bon, ma mère, en tout cas, y a consacré sa vie, n'a rien fait d'autre que d'élever des enfants. Quand je dis rien fait d'autre, hein, c'est
au
déjà
secours,
énorme.
C'est un homme qui parle, là.
C'est un homme qui parle, c'est énorme. Et je prends conscience du sacerdoce d'élever 8 enfants, c'est 30 ans de sa vie. Et en même temps, aujourd'hui, peut-être, où on a une... plus de développement personnel, plus de vouloir réaliser des choses dans sa vie. C'est vrai que les familles nombreuses deviennent plus rares parce que aussi la femme a besoin de s'épanouir autrement que dans son rôle de mère. Dans son rôle de mère, oui, mais aussi dans un rôle professionnel, dans un rôle social, un rôle culturel. Et donc, il y a quelque chose qui bouge, oui, peut-être dans cette époque.
On n'a jamais eu autant de connaissances d'informations, des recherches scientifiques qui donnent un certain nombre d'éléments, d'autres qui donnent des éléments contraires, d'ailleurs, en apparence en tout cas contradictoires. Et vous y allez de votre ouvrage, de votre livre à vous. Est-ce que c'est une façon de rajouter votre pierre à une construction déjà volumineuse? Pourquoi avez-vous écrit sur comment éduquer un enfant? Quel est votre but vous profond alors que vous n'êtes ni pédiatre, ni philosophe au fond?
Non, c'est la question bien sûr que mon éditeur m'a posée quand on a publié le livre, à savoir, comme tu n'es pas pédiatre et philosophe, quelle crédibilité tu vas donner. Et moi, je me considère avant tout comme parent qui aspire en tout cas à développer la conscience, donc l'observation de ce qui se passe dans ce monde. Et je trouve sain que dans un monde, que justement la relation parent-enfant ne soit pas confiée exclusivement à des spécialistes. Quand je dis à des spécialistes, c'est-à-dire uniquement à des pédiatres, à des puériculteurs, mais qu'on ait vraiment une diversité, c'est-à-dire que ça me semble sain que des livres sur la relation parent-enfant soient écrits par des pédiatres, par des instituteurs, par des médecins, par des peintres, par des pharmaciens, par des artistes, voilà, ça permet de multiplier les regards. Sinon, on en arrive à un regard de spécialiste qui fait que pour le parent qui n'est ni pédiatre ni spécialiste de la relation parent-enfant, quand son enfant travaille mal à l'école, il va aller voir immédiatement l'instituteur. Et quand l'enfant développe un eczéma ou de l'asthme, etc., il va aller voir le médecin. Et quand l'enfant mord son frère ou passe sa journée sur son Game Boy, il va aller voir le pédopsychiatre ou le thérapeute. Et dans cette façon de fonctionner, on en arrive à un fonctionnement de spécialiste. Et le parent perd sa spécificité, qu'il est le premier spécialiste de son enfant. C'est lui qu'il connaît le mieux et qui pourrait être à même de trouver le mieux les réponses qui concernent sa relation et ses enfants.
Mais en même temps, toute cette connaissance accumulée, parce que tous ces livres sortent, les parents les lisent, et ça met une sorte de confusion dans leur tête. Et les parents, par-dessus tout, ont peur de mal faire ou de ne pas être à la hauteur ou de pas faire comme il faut. Et quand vous dites qu'il est le mieux placé pour savoir, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Est-ce que le parent est encore connecté à ce savoir?
Alors, j'ai envie de répondre oui, dès lors que le parent accepte de prendre du recul. C'est-à-dire que là, oui, on pourrait être un peu assommé devant la profusion de conseils souvent contradictoires sur la façon dont on peut être avec nos enfants. Mais quand on regarde tout ça avec un peu de recul, on voit vraiment que la profusion de livres, de témoignages sur la relation parent-enfant vient pour combler aussi un manque qui nous a accompagnés pendant des années et des années. C'est-à-dire que pendant des années, on ne se posait pas toutes ces questions sur la relation parent-enfant. L'enfant, on le nourrissait, et puis ensuite on l'emmenait à l'école, et puis ensuite il n'y avait pas toute cette conscience du fait qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, notre comportement est conditionné, le rapport qu'on a à la confiance en soi, à l'estime de soi, est conditionné essentiellement sur la relation qu'on a eue en tant qu'enfant avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos enseignants.
On nous l'a bien dit, on nous a rabâché que dès qu'il y a un problème, on dit d'aller voir du côté de l'enfance. Donc
Oui,
c'est
oui,
lourd,
oui.
enfin c'est lourd aussi à porter ça, cette
C'est lourd à porter.
origine de tous nos malheurs.
Et c'est d'autant plus lourd qu'on prend conscience que pendant des décennies, on a complètement zappé et on a été avec nos enfants, on a créé des traumatismes. Quand je dis on, c'est vraiment étalé sur des décennies, sur peut-être des siècles. Et c'est justement cette prise de conscience qui remonte dans les années 60, où d'un seul coup, il y a une vraie prise de conscience, d'abord avec l'arrivée de la psychanalyse et puis après avec le travail de Dolto et d'autres, qui ont d'un seul coup vraiment apporter un éclairage nouveau. Et dans cet éclairage nouveau, eh ben, ça nous permet de davantage conscientiser la relation que les parents ont avec leurs enfants. Donc, on a quelque chose à rééquilibrer pour que tout ça devienne naturel.
Alors, ce que vous dites au tout début de votre livre, c'est au fond une des prises de conscience fortes des dernières décennies, c'est que l'enfant n'est pas un vase vide qu'il suffit de remplir, mais qu'il est une personne qui amène déjà quelque chose de un potentiel et des caractéristiques qui sont uniques. Et ça a créé un mélange de bonnes surprises et en même temps de stupéfaction, parce que du coup, on ne sait plus quoi faire. L'enfant est une personne, oui, mais il est totalement dépendant. Et on n'est pas encore tout à fait au clair avec ce qu'il est vraiment, cet enfant.
Non, mais en tout cas, c'est ce qui peut permettre aux parents qui ont plusieurs enfants de comprendre qu'est-ce qui fait que j'ai donné sensiblement la même éducation à mes différents fils et filles, et pourtant l'un est très poète, et l'autre est un matheux, et l'un est très timide, et le deuxième est très excentrique, etc. Nous, on est 8 enfants chez moi, en tant qu'enfant, et l'un travaille dans la police, l'autre est prof de gym, le troisième travaille sur les ordinateurs, l'un est très timide, le quatrième est artiste, le cinquième. Donc chacun a une personnalité très différente, pourtant on a eu les mêmes parents qui nous ont élevés avec sensiblement les mêmes règles à la maison. Donc ça veut bien dire qu'au-delà des règles et du comportement des parents, il y a aussi la nature propre de l'enfant et ce avec quoi il vient sur cette terre, sa personnalité qui va se construire, mais surtout son essence. Et le rôle du parent pour moi, c'est vraiment d'accompagner l'enfant à se reconnecter avec son essence. C'est pour ça que c'est un rôle d'accompagnant, de guide, plus que de formateur qui devrait remplir un vase de toutes les connaissances à bien apprendre pour être structuré dans ce monde.
Mais le balancier, on le sait bien, hein, est fait pour balancer. Et donc, après avoir formaté les enfants, on leur a laissé un espace parfois trop important, ou en tout cas sans leur mettre suffisamment peut-être de cadre. Enfin, on assiste un peu à tout et n'importe quoi aujourd'hui. Entre les enfants qui se roulent par terre, on a l'impression qu'ils sont des enfants rois, d'autres enfants qui continuent à être formatés. Enfin, on peut parler d'éducation au pluriel, je trouve. Aujourd'hui, on est un peu perdu, non,
Oui, et ça crée beaucoup, d'autant plus de confusion que bien souvent les parents simplifient un petit peu ce qui s'est passé en disant voilà, avant les enfants étaient dressés à la baguette, ça marchait très bien. Ensuite, on s'est mis à les écouter. Et depuis qu'on les écoute, ce sont des enfants rois. Donc, il faut revenir à une éducation plus sévère et plus stricte. Mais malheureusement, c'est plus complexe que ça. Ça marche pas comme ça. On peut pas résumer la relation parent-enfant en disant une éducation sévère et stricte amène des enfants disciplinés et heureux, et une relation plus souple amène des enfants qui sont paumés. C'est plus complexe que ça. Certains parents sont très directifs avec leurs enfants et leurs enfants sont complètement paumés, et d'autres parents sont beaucoup plus souples et les enfants sont très structurés. Donc on ne peut pas opposer, simplifier à cet extrême-là.
Et
On
là,
est
vous nous
obligé de.
achevez. Là, vous nous achevez.
Mais on est en apprentissage. De toute façon, on est à une période, et ça c'est important d'en prendre conscience, on est à une période où on prend conscience qu'on a beaucoup de mal à intégrer les deux extrêmes de notre société, c'est-à-dire les enfants et les personnes âgées. On a
Oui, c'est
mis
vrai.
beaucoup de notre énergie sur le monde du travail, hein, c'est réussir dans la vie, c'est avoir un métier,
Donc
mais
l'époque de la production, hein. Ce qui
de la
intéresse la
production.
société, c'est les gens qui produisent, donc les 20-60.
Voilà, c'est ça. Et du coup, on a écarté les moins de 20 et les plus de 60, ce qui fait quand même beaucoup de monde sur la balance. Moi, j'ai été frappé quand j'étais au Tibet de voir, par exemple, que les familles vivent à 4 générations ensemble. C'est-à-dire qu'il y a les enfants, il y a les parents, il y a les grands-parents et les arrière-grands-parents qui vivent chacun à leur place. C'est-à-dire que l'enfant, il est dans son apprentissage, l'adulte, il est lui dans son expérience, le parent est dans son enseignement et le grand-parent est dans la méditation. Et du coup, il n'y a aucun problème, quatre générations peuvent très bien vivre dans 20 mètres carrés, ça se passe très bien.
Quand vous dites aucun problème, c'est un peu...
Oui, je schématise bien sûr, parce qu'il y en a, oui. Il y en a d'autres.
Parce que mais... j'imagine qu'ils ont leurs problèmes.
Bien sûr, mais...
Est-ce qu'ils sont beaucoup plus heureux que nous le sommes ici, par exemple ?
Si on voit le bonheur à la joie et à la spontanéité, moi j'aurais pas de mal à dire oui, dans le sens où c'est vrai que j'ai rencontré, je généralise, mais j'ai rencontré quand même des gens tellement plus joyeux, tellement plus légers, et en tout cas avec une le bonheur c'est quand même notre aptitude à nous adapter à ce qui est, et c'est vrai que j'ai vu là-bas beaucoup de facilité de population à cohabiter avec des différences d'âge, ce qui chez nous est très difficile, les enfants ont du mal avec les ados ont du mal avec les jeunes adultes ont du mal avec les adultes plus âgés, et les personnes âgées, celles-là sont souvent écartées. Donc on n'a pas quatre générations, on a sept ou huit générations qui ont souvent beaucoup de mal à cohabiter. C'est pour ça que ça nous demande humblement de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut retourner à l'essentiel, qui est la relation humaine, qui est d'accueillir l'autre dans sa diversité, parce qu'on a tous été enfants et on sera tous âgés à un moment donné, et donc c'est ce qui nous rapproche, quoi. Ça devrait nous rapprocher plus que de nous éloigner.
Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a encore des difficultés à se distancer du modèle qui a été celui des siècles. Le monde était construit sur des attitudes faites d'autoritarisme, de pouvoir, de matérialisme individuel. Hein, c'est ce que vous nous dites d'ailleurs dans le livre. Et en fait, même si on n'adhère plus complètement à ce système, c'est quand même celui qui régit notre société. Nous sommes encore structurés par la force, par le pouvoir, par le plus fort, par le plus riche, par le plus âgé sur le plus jeune. Puis ensuite, par celui qui est dans la puissance de réalisation par rapport à celui qui a moins de force. On continue à fonctionner sur les pouvoirs de force à partir de cela. Et il nous faudrait peut-être dépasser ça, mais comment en sortir ? C'est le modèle de notre société, vous êtes d'accord ?
Oui, c'est le modèle de notre société qui montre ses limites. Là, il suffit de regarder n'importe quel journal télévisé pour se rendre compte que ce modèle, d'une façon globale, montre ses limites, aussi bien au niveau de la consommation, de la pollution, du dégât des eaux, etc. Quand on ouvre un journal télévisé, on ne peut se rendre compte que le modèle sur lequel on a fonctionné est à remettre en question. Et ça nous refait remettre en question aussi bien notre façon de produire, notre façon de consommer, notre façon d'échanger, et donc au quotidien, notre façon de vivre avec l'autre. Et cette prise de conscience dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est vraiment dans cette charnière, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de personnes qui se prennent conscience de ce moment de charnière. Il y a beaucoup de solutions locales, hein, pour reprendre le terme de Colin Serrault. Il y a beaucoup de solutions locales dans un désastre global. Et il y a une prise de conscience qui est importante à mes yeux, à ouvrir à la relation parent-enfant. Parce que c'est là que tout se joue. On a beaucoup à transmettre à nos enfants. Et dans ce qu'on a à leur transmettre, on a aussi à les accompagner, à prendre conscience d'un monde sur lequel ils vivent, de façon à ce que ils puissent s'organiser le mieux possible, vivre le plus sereinement possible.
Oui, mais concrètement, le modèle de l'autorité continue à fonctionner entre les parents et les enfants. Le père et la mère ont une autorité qu'ils exercent, à juste titre jusqu'à un certain point, bien entendu. Mais il y a quelque chose là qui doit être mis en question et on ne sait pas par quelle boule prendre. Regardez les modèles des responsables de nos pays, de nos sociétés, les modèles politiques, hein, les responsables d'entreprise. Ce sont des gens qui véhiculent une image de force et de soumission de l'autre. Il n'y a rien à faire, on n'en sort pas. Nous tous d'ailleurs, franchement.
Bien sûr. L'image de force continue à se développer et elle est nécessaire. Ensuite, ce qui va être important, c'est l'intention que va véhiculer le parent quand il impose son pouvoir. C'est-à-dire qu'on peut imposer son pouvoir à un enfant ou sa puissance à un enfant de 4 ans avec l'intention de le rassurer ou avec l'intention de l'humilier.
Hein, c'est-à-dire ou de le protéger aussi.
Hein, ou de le protéger. De le protéger. Hein. Mais le même acte, demander à un enfant de finir son assiette, on peut le faire en disant « tu vas voir, c'est moi le plus fort, et comme je suis plus fort, c'est toi qui vas finir ton assiette ». Et on peut aussi, par une façon bienveillante, faire en sorte que l'enfant se nourrisse à sa faim. Et dans le même acte, ce qui va faire la différence, c'est notre intention. Et bien souvent, les intentions des parents sont blessantes pour les enfants parce qu'elles ne sont pas animées par un acte d'éducation, mais par une blessure plus ancienne du parent, qui fait que le parent, si lui-même il a souffert dans une relation avec ses propres parents, il va se dire, écoute, moi, il n'y a pas de raison, mon père me forçait à finir mon assiette, il n'y a pas de raison, tu vas finir la sienne.
Mais le parent se dit parfois ça, mais souvent il ne se le dit pas. Et il a réellement une intention peut-être plus positive, même si le comportement n'est pas idéal, c'est de dire, mais c'est bon pour lui qu'il finisse son assiette. C'est un peu court, mais c'est un peu ce qu'on se dit. Donc comment tourner ça ?
Alors, comment tourner ça ? Dans un premier temps, justement, dans le quotidien pour le parent, de se poser la question, c'est-à-dire, si j'interviens avec mon enfant, et c'est important que les parents interviennent régulièrement, mais si j'interviens, la première question, c'est en quoi ça me concerne ? C'est-à-dire, si l'enfant marche sur la moquette blanche avec ses chaussures pleines de boue, ça me concerne parce que j'ai pas envie de passer l'aspirateur, donc c'est important en tant que parent que je me positionne en disant je ne suis pas d'accord pour que tu marches avec des chaussures pleines de boue. Et là, c'est légitime, c'est justifié que le parent intervient. Maintenant, où la question se pose, c'est est-ce que c'est tout aussi légitime si l'enfant a envie de mettre deux chaussettes dépareillées, ou si l'enfant a envie de mettre des couettes sur la tête, ou s'il a envie, etc. Là, la question que doit se poser le parent, c'est en quoi ça me concerne ? Ça, c'est vraiment la première question clé que doit se poser le parent avant d'intervenir auprès de l'enfant, parce que bien souvent les enfants sont traumatisés par des parents qui interviennent toutes les trois phrases, mets pas tes coudes sur la table et mange pas comme ça et arrête de faire ça, et les enfants finissent par ne plus savoir de l'intérieur comment se tenir. Et donc ça, c'est des attitudes qui demandent aux parents de lâcher un peu l'enfant, quoi, en fait, hein. Et c'est là que d'un seul coup, le parent développe sa conscience en disant « Mais non, en fait, là, ça me concerne pas, il n'y a pas de souci avec ça, il peut continuer. » Et si par contre, sa sécurité est en danger ou il y a vraiment besoin d'intervenir, là, je vais intervenir de façon ferme. Mmh. Et la deuxième question que le parent peut se poser, après s'être posé en quoi ça me concerne, c'est « Est-ce que ce que fait l'enfant est adapté à son âge ? Est-ce que ce que je lui demande est adapté à son âge ? C'est-à-dire, un enfant de 3 ans qui va renverser un gros pot de miel, le parent peut se mettre à hurler dessus, mais la question que va poser le parent, c'est est-ce que c'était adapté à l'enfant de prendre avec ses petites mains ce gros pot, par exemple ? Donc, est-ce qu'il mérite de se faire enguirlander pour ça ? Donc, c'est toujours les deux questions qui peuvent servir de balise aux parents. En quoi ça me concerne, avant d'intervenir, en quoi ça me concerne ? Et la deuxième question, est-ce que c'est adapté à l'âge de l'enfant ?
Ça suppose que l'on inverse notre fonctionnement et plutôt d'être en réaction constante, être ce qu'on appelle
en introspection. Oui, tout à fait.
C'est-à-dire, j'agis en conscience parce que c'est vraiment ça que je veux faire. Eh bien, dites donc, c'est pas tellement le genre de question qu'on se pose à toute heure du jour, franchement. On va pas gagner de temps là avec les enfants.
Alors, curieusement, si pour moi on en gagne beaucoup, parce que ça permet aux enfants justement assez rapidement de développer de l'autonomie, de l'indépendance et de la stabilité. Donc vraiment, c'est un investissement. Quand je vois le temps que les parents passent avec des enfants de 14 ans, 15 ans à résoudre des conflits qui émergent parce que pendant 10 ans, ils ont été justement écrasés, je me dis que oui, c'est important pour les parents de passer du temps. Hein, ça, c'est une clé aussi dans la relation parent-enfant, de passer un temps réel, sincère avec chacun de ses enfants, dans une qualité d'écoute et de compréhension de l'enfant.
Quand on dit, après tout, j'ai pas beaucoup de temps pour mon enfant, je travaille beaucoup, on a besoin de 2 salaires, et puis sinon on pourra pas partir en vacances, ou on pourra pas changer le téléviseur ou la voiture, on dit ce qui compte c'est la qualité. Vous y croyez, vous, à cette histoire d'opposition quantité-qualité ? J'ai pas beaucoup de temps, mais ce qui est important, voilà.
Oui, j'y crois beaucoup parce que, justement, les parents aujourd'hui travaillent et c'est légitime et c'est bien pour leur équilibre et c'est nécessaire. Et on peut... L'enfant a besoin de 2 choses. Il a besoin d'une qualité de relation et il a besoin d'un suivi. Et j'écris dans le livre, si on pouvait passer ne serait-ce que 5 minutes par jour d'une réelle écoute de nos enfants, on pourrait déjà être assuré qu'il n'y ait pas de crise majeure dans l'adolescence. 5 minutes par jour de réelle écoute. 5 minutes pour vraiment écouter nos enfants. Mmh. C'est-à-dire, on va mettre de côté toutes les fois où on dit « j'ai pas le temps, je fais la vaisselle, j'ai pas le temps, je fais ceci », est-ce que je peux juste 5 minutes me poser, regarder l'enfant dans les yeux et écouter ce qu'il a à me dire ? Et écouter avec tout mon corps, écouter avec mes sensations, me mettre complètement dans une écoute active pour permettre, sans solutionner, sans ramener à soi, sans minimiser, sans exagérer, simplement écouter l'enfant, permettre à l'enfant de se dire. Et à mes yeux, ne serait-ce que 5 minutes par jour, dans une régularité, ça permet vraiment de créer un lien fort et puissant avec les enfants.
Il faudrait peut-être que le parent ait pris 5 minutes pour lui juste avant.
Oui, ça je confirme.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Très très bien.
Arnaud Rioux, que pensez-vous de cette fameuse maxime les enfants doivent faire l'expérience de la frustration. On dit il faut que pour grandir, l'enfant a besoin d'être frustré. Et la vie de toute façon est faite de frustration, donc autant y aller carrément et lui apprendre ça.
De toute façon, quand on traverse l'existence, on est obligé de faire l'expérience de la frustration. Quoi qu'il arrive, qu'on le veuille ou non, la frustration est partout. Donc, on n'a pas, pour moi, à en rajouter en tant que parent, en disant « Tiens, je vais te priver de télé, comme ça tu vas faire l'expérience de la frustration », en se disant que la frustration a quelque chose de positif. Oui, la frustration nous permet de nous dépasser. Mais la frustration, naturellement, elle est partout dans le quotidien. Et le rôle du parent, pour moi, est d'accompagner l'enfant à dépasser cette frustration. Pour développer, à travers la frustration, l'enfant va développer la patience, va développer la persévérance, va développer d'autres qualités, l'adaptation, etc. Donc il peut développer plein de qualités dès lors que le parent ne le prend pas comme une punition, parce que là aussi, c'est la vie que l'enfant va créer à partir de son regard. Quelque chose qu'on n'a pas, ça peut être vécu comme un échec, hein, et ça peut être aussi vécu comme une occasion de développer d'autres qualités. Et ça, le parent peut amener l'enfant à changer son regard sur la situation. Ça, c'est vraiment important.
C'est ça, éduquer, en fait. Hein,
oui, c'est vraiment vous, ça, c'est éduquer. Ça, c'est permettre à l'enfant de changer de regard sur une situation. Mm-hmm. Hein, dernièrement, ma fille, elle faisait un jeu comme ça, et puis elle a renversé son puzzle, et il y avait tout à recommencer, elle était furax. Mm-hmm. Et bon, bien évidemment qu'on était là, on aurait pu balayer ça d'un coup, et je l'ai accompagnée à recommencer le puzzle, et très vite, je lui ai montré comment elle était, par cet exercice, en train de développer des qualités de patience, des qualités de persévérance qui vont lui resservir ailleurs que dans ce puzzle. Oui, ça lui a plu beaucoup. C'est la première chose qu'elle a dit à sa mère quand elle l'a revue le soir. Cet après-midi, j'ai développé ma patience. Parce que le rôle du parent, et c'est pour ça que j'ai mis en sous-titre « Parent conscient, enfant confiant », parce que le rôle du parent, c'est justement d'être dans une conscience, une observation, pour permettre à l'enfant de changer de regard sur une situation.
Le livre est dense, il y a beaucoup de sujets, évidemment, on ne peut pas tout aborder, mais j'avais envie de parler de quelque chose qui est dit et redit par le monde des adultes, mais on l'entend en politique. C'est « Ah là là, il n'y a plus de valeurs, les parents ne savent plus communiquer des valeurs, la société n'a plus de valeurs et les enfants et les adolescents, les jeunes adultes se conduisent mal, ils sont violents parce qu'il n'y a plus de valeurs. » Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ça? Est-ce que c'est vrai?
Comme souvent il n'y a plus de valeurs, les parents face à ça se disent « Il faut absolument qu'on inculque des valeurs à nos enfants et on va donc leur inculquer, les parents sont d'accord sur les valeurs à inculquer, c'est-à-dire on va leur inculquer la générosité, la bonté, l'écoute de l'autre, etc. » Et ils vont
de force.
De force, c'est ça, beaucoup d'énergie pour imposer des valeurs à l'enfant. Or, il n'y a qu'une façon de transmettre des valeurs, c'est par l'exemple. Si l'exemple n'est pas la meilleure façon d'éduquer, c'est la seule. C'est-à-dire, c'est par, en incarnant les valeurs nous-mêmes en tant que parents, que les enfants vont vouloir nous imiter. Parce que voir quelqu'un de généreux, c'est beau à voir et on est attiré par ça. Naturellement, les enfants sont attirés par ça. Donc on n'a pas besoin de vouloir imposer à nos enfants d'être généreux et de prêter ses jouets. Non, si nos enfants nous voient nous-mêmes développer la générosité au quotidien, ils vont vouloir nous imiter parce qu'ils vont se rendre compte que c'est très goûteux en fait de développer ces valeurs-là. Donc le parent en fait en permanence transmet des valeurs, mais il ne transmet pas des valeurs que quand il fait acte d'éducation, il transmet des valeurs quand il y a un colporteur qui frappe à la porte et la façon dont il va lui répondre, ou la façon dont l'homme parle à sa femme ou la femme à son mari, c'est une façon de transmettre une valeur et l'enfant. Et là, il observe, il ne rate rien de la façon dont son père parle à sa mère, de la façon dont son père parle au garagiste, de la façon dont sa mère promène le chien ou son père promène le chat, etc. L'enfant va être très attentif à ça. Et Dès lors qu'il va voir quelque chose qui rend heureux le parent, il va vouloir l'imiter. Et ce
Alors
qui.
là, évidemment, cet exercice de congruence, hein, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, ça c'est extrêmement difficile, franchement. Et d'ailleurs, les modèles, reprenons les modèles aussi qu'on voit se déverser à la télévision, c'est vraiment des anti-modèles, puisqu'on voit de la violence, des rapports de force, des insultes. Je grossis à peine le trait, il y a aussi des belles choses à la télévision, mais quand même, ce que
Oui.
nous montre la société, comme par hasard, c'est ce qui n'est pas terrible.
C'est pour ça qu'il faut beaucoup de courage pour moi pour éduquer les enfants dans
D'abord, est-ce
cette.
qu'il faut
Ah,
fermer la télé?
moi, ça fait 10 ans que je l'ai laissé sur le trottoir tellement je trouvais ça parasitaire dans la relation, donc je me suis débarrassé de cet objet.
Ah,
Et ça me fait
donc elle va
beaucoup de
voir la
vacances.
télé chez les copines, c'est ça?
Non, elle n'en éprouve plus le besoin, en fait. Elle n'en éprouve plus le besoin. De temps en temps, elle la regarde quand elle est chez une copine, mais sinon, non, et je ne lui ai pas interdit. Pendant longtemps, j'avais une télé à la cave, et quand elle voulait la regarder à la télé, je la sortais. Je l'ai juste amenée à prendre conscience de l'état dans lequel on se trouve quand on a regardé 2 heures la télé, qui est un état de passivité. Bon, j'ai la chance d'habiter à la campagne, mais dès lors que je lui proposais, elle pouvait regarder la télé, dès lors que je lui proposais d'aller faire une cabane dans les bois, il n'y a pas photo, immédiatement. Donc la télé a été très pratique pour les parents. Qui laissaient leurs enfants des heures devant la télé, ça leur permettait de faire autre chose. Mais il y a aussi beaucoup d'effets secondaires. Et les effets secondaires, c'est que l'enfant entretient une relation virtuelle au monde. Ça, c'est l'un des effets secondaires et que les parents payent cher souvent. Ouais.
Et pour revenir donc au comportement, je veux dire, c'est quand même extrêmement exigeant hein, de se dire que la part la plus importante de l'éducation, c'est l'effet miroir, quoi, c'est ce que l'on présente à
Oui.
nos enfants.
Oui, c'est très exigeant. C'est pour ça que c'est important, ça me semble important pour que les parents trouvent le ressort et le courage nécessaire de vraiment se dire que c'est comme dans la relation de couple, notre but à chacun en tant qu'être humain, c'est d'évoluer, d'en apprendre plus sur nous, de nous ouvrir, de nous adapter davantage. Et pour ça, il y a deux relations qui nous aident vraiment beaucoup à grandir. Le premier, c'est la relation de couple. Et la seconde, c'est la relation avec nos enfants. Ce sont vraiment les relations qui nous aident le plus à développer notre tolérance, notre ouverture, notre écoute de l'autre, notre compréhension, notre non-jugement. Et ces relations sont vraiment des relations privilégiées. C'est pour ça que la relation en tant que parent, de faire ce choix d'avoir des enfants, c'est vraiment une voie privilégiée pour accéder jusqu'au cœur de soi-même. Encore faut-il avoir cette envie de se rapprocher de soi-même.
On a parfois peur, hein, d'être jugé par nos enfants. Secrètement, beaucoup de parents ont peur de cela. Est-ce que c'est une peur que vous avez parfois?
On le sera de toute façon jugé. Et la seule question qu'on peut se poser, c'est à la fin de sa journée, moi c'est ce que je fais en tout cas, je pose la main sur mon cœur, je me regarde dans la glace et je dis, est-ce que j'ai fait de mon mieux? Et si je peux répondre oui, j'ai fait de mon mieux, alors j'ai la conscience tranquille. Même si, comme d'autres parents, je fais des erreurs, je me trompe et j'apprends justement de mes échecs. Mais la question, c'est vraiment, est-ce que j'ai fait de mon mieux? Et ça,
Mais
c'est une question qui va nous aider vraiment.
quand vous découvrez, et ça vous arrive, j'imagine, comme nous tous souvent, que vous avez fait une erreur, vous n'avez pas été à la hauteur, ou vous avez peut-être triché en répondant, est-ce que vous lui dites, est-ce que vous reconnaissez vos doutes et vos difficultés? Parce que les parents ont l'impression qu'ils doivent symboliser quelque chose de ferme, de sûr, pour le bien des enfants d'ailleurs.
Et c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'enfant d'un seul coup regarde son parent en se disant c'est qui cet être divin que je ne pourrai jamais atteindre. Alors que, en tout cas pour moi, dès que je montre mes faiblesses, mes doutes, ça crée de la confiance de son côté. Elle se sent encore plus sécurisée. Hein, par exemple, j'ai pas le sens de l'orientation du tout. Moi, je gare ma voiture, 3 pâtés de maison après, je sais plus où je l'ai garée. Bon, je m'en amuse et je sais que du coup, quand je me promène avec ma fille, ça lui permet à elle de développer son sens de l'orientation à elle et elle s'appuie beaucoup là-dessus. Elle me charrie et me blague, mais c'est pas du tout une faiblesse pour un parent de mettre à jour ce qu'il considère comme des faiblesses. Au contraire, c'est une grande force.
Parce qu'au fond, il s'agit d'authenticité. Vous soulignez ça aussi dans le livre.
Oui,
Vous
oui,
avez
oui.
toute une réflexion sur la notion d'authenticité. Qu'est-ce que c'est dans votre esprit, dans la relation parent-enfant?
Un jour, j'ai fait un atelier avec des enfants et j'ai posé la question à des enfants de 8 à 10 ans à peu près, quelle serait la qualité que vous voudriez le plus développer, le pouvoir, le super pouvoir que vous voudriez.
Et bonjour à vous, Arnaud Rioux.
Bonjour.
Comment allez-vous en ce retour de vacances? Est-ce que vous avez eu le temps de faire le point sur votre propre vie?
Ah, le point, je le fais régulièrement, mais je le fais dans la détente et tout au long de l'année. Je me pose toujours la question de savoir si je suis bien sur ma route. Et jusqu'à présent, ça me dit oui.
Oui, mais est-ce que vous êtes de ceux qui prennent des résolutions à cette étape-là de l'année?
Non, pas particulièrement. Ça, les résolutions, elles s'imposent en général naturellement. C'est-à-dire que dès lors que moi, je me sens en lien avec moi, les bonnes résolutions se prennent naturellement, mais tout au long de l'année, pas particulièrement à la rentrée.
Qu'est-ce que c'est qu'une bonne résolution pour vous, par exemple? Quelle est parmi celles que vous avez prises dernièrement?
Une bonne résolution, qu'est-ce que ça pourrait être une bonne résolution? Puisqu'on va parler de la relation parent-enfant, ça pourrait être, tiens, et si je consacrais un peu plus de vigilance ou d'attention à la relation que je porte à mes enfants? Ça pourrait être une résolution.
Oui. Et vous en parlez avec eux de ça, de la difficulté à réserver du temps
Avec les parents,
avec les enfants, avec vos enfants,
avec mes enfants, avec ma fille,
avec votre
oui,
fille.
on en parle beaucoup. Dernièrement, il y a une journaliste qui est venue à la maison pour faire une interview sur le livre. Et on parlait pendant 3 quarts d'heure. On a eu une belle conversation en vue d'une émission. Et au bout de la conversation, il y a ma fille qui est arrivée en disant: Tu t'occupes pas de moi! Alors, c'était vraiment le décalage. C'est-à-dire que tout le temps, on a la possibilité de savoir qu'est-ce qu'on veut privilégier et est-ce que la relation à nos enfants, est-ce qu'on est prêt à y consacrer du temps, hein? De mon côté, quand on consacre du temps à la relation avec son enfant, c'est vraiment un des meilleurs investissements qu'on peut faire dans sa vie en tant que parent. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
Elle a quel âge aujourd'hui, votre fille?
Maintenant, elle a 10 ans et rentre au collège vendredi. Alors ça change complètement puisque la rentrée au collège, c'est d'autres repères, c'est d'autres. Et curieusement, avant même qu'elle ait franchi la porte du collège, déjà son inconscient sait qu'il va se passer quelque chose, que ça va pas être les mêmes rapports, notamment dans la relation garçon-fille, parce que avant le collège, c'est beaucoup les garçons qui jouent entre eux et les filles entre elles. Et dès qu'on pousse la porte du collège, ça y est, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la rencontre. Et ça, curieusement, inconsciemment, les enfants le sentent, le savent et commencent à en parler entre eux. Et quand ça se passe bien, on parle aussi avec leurs parents.
Qu'est-ce qu'elle vous a posé comme question à l'occasion de ce changement dans sa vie d'enfant?
Plus que des questions, c'est l'inquiétude qu'elle pourrait avoir. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça va être si différent que ça? Et si ça ne se passe pas bien, comment ça va être? Et comment je vais faire? Est-ce que les gens vont me... Une question qui m'a frappé, c'est s'il y a beaucoup de monde, est-ce que les gens se souviendront de mon prénom? Et ça, c'est une question qu'elle m'a posée, qui m'a vraiment attiré l'attention sur le besoin qu'ont les enfants d'être identifié à part entière comme un individu avant d'être un élève ou le membre d'un groupe, mais d'être reconnu pour ce qu'on est. Et ça passe par le prénom, le visage et le prénom. Et déjà, quand un enseignant appelle son enfant par son prénom, bah, ça change tout.
Et quand notre enfant, votre enfant en l'occurrence, pose ce genre de questions, enfin fondamentales, existentielles, hein, à son niveau, c'est existentiel ce qu'elle demande,
Ouais.
quel est le rôle de son parent? Parce que certains parents font bah bah bah, tu verras, c'est pas si grave. D'autres font ah là là, oui, là les choses sérieuses commencent. Enfin, voyez le genre. Qu'est-ce
Oui.
qu'il attend l'enfant en fait? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre, vous?
Souvent, ce qu'il attend, c'est pas ce qu'il demande. C'est-à-dire que quand l'enfant demande s'il va y avoir beaucoup plus de devoirs cette année, il ne
Oui.
fait pas que poser une question, il pose une inquiétude. Et dans cette inquiétude, il y a au moins 2 choses. Est-ce que moi je vais être à la hauteur en tant qu'enfant? Ça, c'est la question qui se pose. Et est-ce que le lien avec toi en tant que parent va être maintenu? Et ça, ce sont les 2 choses dont l'enfant a vraiment besoin. Maintenir le lien. Et c'est pour ça que si on répond trop vite uniquement à la question, on peut être sûr qu'il y a une autre question qui va suivre immédiatement après. Et si jamais on va à la piscine, est-ce qu'il va se passer ça? Et si? Et dans ces moments-là, c'est, enfin, moi en tout cas en tant que parent, quand je sens qu'il y a une inquiétude, je me prends le temps de me poser avec elle et rien que dans l'attitude de maintenir moi une attitude apaisée. Et comme ça, elle s'apaise elle-même en miroir. Et si elle-même elle s'apaise, elle trouve elle-même la réponse aux questions qui peuvent la
Mais ça veut
préoccuper.
dire que vous acceptez, vous, éventuellement, ou que le parent en face accepte d'être momentanément peut-être déstabilisé, parce que on sait très bien que les conseils qu'on donne ou les réponses toutes faites, elles sont là pour nous rassurer, nous, et pas
Oui.
tellement rassurer les enfants. C'est bien connu, cette histoire.
Oui, tout le temps
Tout le temps.
déstabilisé. Et curieusement, dans l'acceptation de cette déstabilisation, il y a un sentiment de sécurité qui naît. Si on accepte, en tout cas, si moi j'accepte toutes les choses sur lesquelles je suis impuissant, toutes les choses sur lesquelles je ne peux rien, c'est-à-dire comment ça va se passer pour elle en maths, bah oui, je pourrais l'aider un peu le soir, mais profondément, c'est sa vie à elle. Et il y a un endroit où assez vite ça nous échappe. Et en tant que parent, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et si on accepte notre impuissance, curieusement, c'est de la reconnaissance de nos limites que naît notre sentiment de sécurité.
Mais c'est justement ce que nous ne voulons pas reconnaître, notre impuissance. J'ai le sentiment qu'en arrière-plan, en tant qu'adultes, nous avons passé un temps fou à nous construire pour pouvoir répondre, faire face, être à la hauteur, ne pas être pris au dépourvu. Déjà comme l'homme des cavernes, hein. Enfin, on veut prévoir, en fait, et on veut contrôler. C'est ça qui est difficile, par rapport à nos enfants, je trouve, c'est
Ben
d'accepter
oui, parce qu'on peut se rassurer,
ce doute.
la vie c'est un mystère, toujours un mystère à explorer. Et dès lors qu'on accepte de vivre complètement, eh ben on est toujours dans le doute, non, parce qu'il y a une confiance qui naît, mais il y a un mystère. Et le mystère, il est là sur les questions existentielles, il est là sur quel métier on fera quand on a 13 ans et qu'on se pose la question, qu'est-ce que je ferai comme métier demain? Bah, on n'en sait rien, en fait. Et on peut vivre en acceptant, en cohabitant avec le mystère. Et c'est
Ben,
de
oui.
cette cohabitation avec le mystère que naît notre sentiment de
Mais Arnaud
sécurité.
Rioux, ça c'est une vision du monde. Parce qu'en fait, quand vous dites cohabiter avec le doute, vivre avec le doute, c'est ça la vie, c'est votre vision. Il me semble
Oui.
qu'on passe beaucoup de temps et d'énergie à disqualifier le doute et à essayer de l'empêcher de s'imprimer en nous.
Oui, moi-même, j'ai passé beaucoup de temps à tout vouloir comprendre. J'ai passé beaucoup
Ah,
de temps.
en tant que consultant et coach, je suis sûre que vous avez essayé de trouver des réponses. C'est
J'ai
ça?
voulu trouver des réponses,
Qui
j'ai voulu aider
marche pour
les
tout
gens
le
qui marchaient quand les gens
monde.
venaient me voir. Je me disais, il faut qu'à la fin de la séance, ils aillent bien, ils aillent mieux. Et puis, eh ben, simplement, j'ai appris deux choses. La première, c'est que on ne peut s'aider que soi-même, hein. Ça c'est vraiment la chose la plus importante. On ne peut s'aider que soi-même quand on a envie de bouger. Et la deuxième, c'est qu'il y a une grande sécurité qui naît de notre acceptation de vivre avec le mystère. Et quand on vit avec le mystère, parce que le monde est plein de mystères, à ce moment-là, on peut aussi se sentir en sécurité. C'est pas du tout incompatible.
Quelle serait votre définition à vous de l'éducation, puisqu'on va parler de qu'est-ce que nous avons à communiquer et qu'est-ce que c'est que éduquer, vous préférez le mot accompagner un enfant. On va parler de ça évidemment tout au long de cette conversation. Quelle est votre définition à vous?
C'est vraiment une présence qui, pour moi, doit être rassurante parce que l'enfant se pose plein de questions et dans le doute et il a besoin que son père ou sa mère puisse être un élément rassurant pour, voilà, comme une référence rassurante, mais surtout pas quelqu'un qui nie fait à sa place, parce que ça c'est très blessant, ni quelqu'un qui décide pour lui, mais quelqu'un qui puisse être comme un phare dans l'océan, comme un guide, qui puisse par son expérience et par sa congruence, par sa cohérence, servir d'exemple, de façon à ce que l'enfant puisse suivre son père ou sa mère en disant voilà, je vois un adulte qui a l'air heureux, qui a l'air épanoui, j'ai envie d'être moi aussi dans cette voilà un élément de réponse qui sert comme un guide, comme un phare. C'est vraiment comme ça que je vois les choses.
Heureusement que l'on n'a pas cette exigence à l'instant où on fait un enfant, parce qu'on n'en ferait pas, franchement.
Et
Parce qu'être un
curieusement,
phare sur le chemin, un
moi je.
repère sécurisant, quelqu'un de congruent, enfin, je veux dire, on met un temps fou
Oui.
à y essayer un tout petit peu. Parfois, on n'y
Ah, c'est le
arrivera
travail d'une
jamais.
vie.
Ben
C'est le
oui,
travail d'une
alors,
vie.
quand on fait un enfant, est-ce qu'on a ça présent à l'esprit, franchement?
Peut-être que sinon on ne le ferait pas.
Oui, c'est ça, hein.
Et curieusement, moi je suis surpris de la rapidité quand je vois les parents qui bien souvent n'ont pas d'enfant ou sont sur le point d'avoir un enfant et d'un seul coup c'est la panique. Comment je vais faire pour l'éduquer? Comment je vais faire? Est-ce que je vais savoir comment lui donner à manger? Comment... Il y a vraiment une panique souvent pour les parents juste avant que l'enfant vienne au monde. Et à partir du moment où l'enfant est là, quelques jours ou quelques semaines après, les parents d'un coup, peut-être pour se rassurer, se blindent de certitude en disant voilà, pour faire comme ça, il faut passer par là, pour faire comme ci, il faut passer par là. Et en faisant ça, il y a comme une urgence de se dire il faut qu'on sache parce qu'il faut qu'on aide nos enfants. Et pour moi, cette aide qu'on peut donner à nos enfants passe aussi par le fait d'accepter de partager du doute avec eux. Mais c'est vrai que si on était conscient de tout ce que demande l'accompagnement d'un enfant, peut-être on serait moins nombreux à en faire ou on en ferait moins.
Déjà qu'on n'en fait plus beaucoup dans nos pays, franchement. Peut-être justement parce qu'on trouve ça compliqué ou qu'on en est devenu plus égoïste, je ne sais pas.
Alors je ne sais pas, moi je ne sais pas si je suis un bon exemple pour ça, parce que je suis le septième enfant d'une famille de 8 et j'ai une fille et je pense que ça sera que je n'en aurai pas d'autres.
Ah.
Et quand, oui, d'une famille de 8, je suis devenu à une famille avec un enfant. Et à la fois, ça naît quand j'ai pris conscience de tout ce que demandait un enfant comme disponibilité, comme temps, comme énergie. Et je me dis, mais comment les parents... Alors, peut-être, bon, ma mère, en tout cas, y a consacré sa vie, n'a rien fait d'autre que d'élever des enfants. Quand je dis rien fait d'autre, hein, c'est
au
déjà
secours,
énorme.
C'est un homme qui parle, là.
C'est un homme qui parle, c'est énorme. Et je prends conscience du sacerdoce d'élever 8 enfants, c'est 30 ans de sa vie. Et en même temps, aujourd'hui, peut-être, où on a une... plus de développement personnel, plus de vouloir réaliser des choses dans sa vie. C'est vrai que les familles nombreuses deviennent moins plus rares parce que aussi la femme a besoin de s'épanouir autrement que dans son rôle de mère. Dans son rôle de mère, oui, mais aussi dans un rôle professionnel, dans un rôle social, un rôle culturel. Et donc, il y a quelque chose qui bouge, oui, peut-être dans cette époque.
On n'a jamais eu autant de connaissances d'informations, des recherches scientifiques qui donnent un certain nombre d'éléments, d'autres qui donnent des éléments contraires, d'ailleurs, en apparence en tout cas contradictoires. Et vous y allez de votre ouvrage, de votre livre à vous. Est-ce que c'est une façon de rajouter votre pierre à une construction déjà volumineuse? Pourquoi avez-vous écrit sur comment éduquer un enfant? Quel est votre but vous profond alors que vous n'êtes ni pédiatre, ni philosophe au fond?
Non, c'est la question bien sûr que mon éditeur m'a posée quand on a publié le livre, à savoir, comme tu n'es pas pédiatre et philosophe, quelle crédibilité tu vas donner. Et moi, je me considère avant tout comme parent qui aspire en tout cas à développer la conscience, donc l'observation de ce qui se passe dans ce monde. Et je trouve sain que dans un monde, que justement la relation parent-enfant ne soit pas confiée exclusivement à des spécialistes. Quand je dis à des spécialistes, c'est-à-dire uniquement à des pédiatres, à des puériculteurs, mais qu'on ait vraiment une diversité, c'est-à-dire que ça me semble sain que des livres sur la relation parent-enfant soient écrits par des pédiatres, par des instituteurs, par des médecins, par des peintres, par des pharmaciens, par des artistes, voilà, ça permet de multiplier les regards. Sinon, on en arrive à un regard de spécialiste qui fait que pour le parent qui n'est ni pédiatre ni spécialiste de la relation parent-enfant, quand son enfant travaille mal à l'école, il va aller voir immédiatement l'instituteur. Et quand l'enfant développe un eczéma ou de l'asthme, etc., il va aller voir le médecin. Et quand l'enfant mord son frère ou passe sa journée sur son Game Boy, il va aller voir le pédopsychiatre ou le thérapeute. Et dans cette façon de fonctionner, on en arrive à un fonctionnement de spécialiste. Et le parent perd sa spécificité, qu'il est le premier spécialiste de son enfant. C'est lui qu'il connaît le mieux et qui pourrait être à même de trouver le mieux les réponses qui concernent sa relation et ses enfants.
Mais en même temps, toute cette connaissance accumulée, parce que tous ces livres sortent, les parents les lisent, et ça met une sorte de confusion dans leur tête. Et les parents, par-dessus tout, ont peur de mal faire ou de ne pas être à la hauteur ou de pas faire comme il faut. Et quand vous dites qu'il est le mieux placé pour savoir, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Est-ce que le parent est encore connecté à ce savoir?
Alors, j'ai envie de répondre oui, dès lors que le parent accepte de prendre du recul. C'est-à-dire que là, oui, on pourrait être un peu assommé devant la profusion de conseils souvent contradictoires sur la façon dont on peut être avec nos enfants. Mais quand on regarde tout ça avec un peu de recul, on voit vraiment que la profusion de livres, de témoignages sur la relation parent-enfant vient pour combler aussi un manque qui nous a accompagnés pendant des années et des années. C'est-à-dire que pendant des années, on ne se posait pas toutes ces questions sur la relation parent-enfant. L'enfant, on le nourrissait, et puis ensuite on l'emmenait à l'école, et puis ensuite il n'y avait pas toute cette conscience du fait qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, notre comportement est conditionné, le rapport qu'on a à la confiance en soi, à l'estime de soi, est conditionné essentiellement sur la relation qu'on a eue en tant qu'enfant avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos enseignants.
On nous l'a bien dit, on nous a rabâché que dès qu'il y a un problème, on dit d'aller voir du côté de l'enfance. Donc
Oui,
c'est
oui,
lourd,
oui.
enfin c'est lourd aussi à porter ça, cette
C'est lourd à porter.
origine de tous nos malheurs.
Et c'est d'autant plus lourd qu'on prend conscience que pendant des décennies, on a complètement zappé et on a été avec nos enfants, on a créé des traumatismes. Quand je dis on, c'est vraiment étalé sur des décennies, sur peut-être des siècles. Et c'est justement cette prise de conscience qui remonte dans les années 60, où d'un seul coup, il y a une vraie prise de conscience, d'abord avec l'arrivée de la psychanalyse, et puis après avec le travail de Dolto et d'autres, qui ont d'un seul coup vraiment apporter un éclairage nouveau. Et dans cet éclairage nouveau, eh ben, ça nous permet de davantage conscientiser la relation que les parents ont avec leurs enfants. Donc, on a quelque chose à rééquilibrer pour que tout ça devienne naturel.
Alors, ce que vous dites au tout début de votre livre, c'est au fond une des prises de conscience fortes des dernières décennies, c'est que l'enfant n'est pas un vase vide qu'il suffit de remplir, mais qu'il est une personne qui amène déjà quelque chose de un potentiel et des caractéristiques qui sont uniques. Et ça a créé un mélange de bonnes surprises et en même temps de stupéfaction, parce que du coup, on ne sait plus quoi faire. L'enfant est une personne, oui, mais il est totalement dépendant. Et on n'est pas encore tout à fait au clair avec ce qu'il est vraiment, cet enfant.
Non, mais en tout cas, c'est ce qui peut permettre aux parents qui ont plusieurs enfants de comprendre qu'est-ce qui fait que j'ai donné sensiblement la même éducation à mes différents fils et filles, et pourtant l'un est très poète, et l'autre est un matheux, et l'un est très timide, et le deuxième est très excentrique, etc. Nous, on est 8 enfants chez moi, en tant qu'enfant, et l'un travaille dans la police, l'autre est prof de gym, le troisième travaille sur les ordinateurs, l'un est très timide, le quatrième est artiste, le cinquième. Donc chacun a une personnalité très différente, pourtant on a eu les mêmes parents qui nous ont élevés avec sensiblement les mêmes règles à la maison. Donc ça veut bien dire qu'au-delà des règles et du comportement des parents, il y a aussi la nature propre de l'enfant et ce avec quoi il vient sur cette terre, sa personnalité qui va se construire, mais surtout son essence. Et le rôle du parent pour moi, c'est vraiment d'accompagner l'enfant à se reconnecter avec son essence. C'est pour ça que c'est un rôle d'accompagnant, de guide, plus que de formateur qui devrait remplir un vase de toutes les connaissances à bien apprendre pour être structuré dans ce monde.
Mais le balancier, on le sait bien, hein, est fait pour balancer. Et donc, après avoir formaté les enfants, on leur a laissé un espace parfois trop important, ou en tout cas sans leur mettre suffisamment peut-être de cadre. Enfin, on assiste un peu à tout et n'importe quoi aujourd'hui. Entre les enfants qui se roulent par terre, on a l'impression qu'ils sont des enfants rois, d'autres enfants qui continuent à être formatés. Enfin, on peut parler d'éducation au pluriel, je trouve. Aujourd'hui, on est un peu perdu, non, dans.
Oui, et ça crée beaucoup, d'autant plus de confusion que bien souvent les parents simplifient un petit peu ce qui s'est passé en disant voilà, avant les enfants étaient dressés à la baguette, ça marchait très bien. Ensuite, on s'est mis à les écouter et depuis qu'on les écoute, ce sont des enfants rois. Donc, il faut revenir à une éducation plus sévère et plus stricte. Mais malheureusement, c'est plus complexe que ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas résumer la relation parent-enfant en disant une éducation sévère et stricte amène des enfants disciplinés et heureux, et une relation plus souple amène des enfants qui sont paumés. C'est plus complexe que ça. Certains parents sont très directifs avec leurs enfants et leurs enfants sont complètement paumés, et d'autres parents sont beaucoup plus souples et les enfants sont très structurés. Donc on ne peut pas opposer, simplifier à cet extrême-là.
Et là, vous nous achevez. Là, vous nous achevez.
Mais on est en apprentissage. De toute façon, on est à une période, et ça c'est important d'en prendre conscience, on est à une période où on prend conscience qu'on a beaucoup de mal à intégrer les deux extrêmes de notre société, c'est-à-dire les enfants et les personnes âgées. On a
Oui, c'est
mis
vrai.
beaucoup de notre énergie sur le monde du travail, hein, c'est réussir dans la vie, c'est avoir un métier.
Donc
Mais
l'époque de la production, hein, ce qui
de la
intéresse la
production.
société, c'est les gens qui produisent, donc les 20-60.
Voilà, c'est ça. Et du coup, on a écarté les moins de 20 et les plus de 60, ce qui fait quand même beaucoup de monde sur la balance. Moi, j'ai été frappé quand j'étais au Tibet de voir, par exemple, que les familles vivent à 4 générations ensemble. C'est-à-dire qu'il y a les enfants, il y a les parents, il y a les grands-parents et les arrière-grands-parents qui vivent chacun à leur place. C'est-à-dire que l'enfant, il est dans son apprentissage, l'adulte, il est lui dans son expérience, le parent est dans son enseignement et le grand-parent est dans la méditation. Et du coup, il n'y a aucun problème, quatre générations peuvent très bien vivre dans 20 mètres carrés, ça se passe très bien.
Quand vous dites aucun problème, c'est un peu...
Oui, je schématise bien sûr, parce qu'il y en a, il y en a d'autres.
Parce que j'imagine qu'ils ont leurs problèmes.
Bien sûr, mais
est-ce qu'ils sont beaucoup plus heureux que nous le sommes ici, par exemple?
Si on voit le bonheur à la joie et à la spontanéité, moi j'aurais pas de mal à dire oui, dans le sens où c'est vrai que j'ai rencontré, je généralise, mais j'ai rencontré quand même des gens tellement plus joyeux, tellement plus légers, et en tout cas avec une le bonheur, c'est quand même notre aptitude à nous adapter à ce qui est, et c'est vrai que j'ai vu là-bas beaucoup de facilité de population à cohabiter avec des différences d'âge, ce qui chez nous est très difficile. Les enfants ont du mal avec les ados ont du mal avec les jeunes adultes ont du mal avec les adultes plus âgés, et les personnes âgées, celles-là sont souvent écartées. Donc on n'a pas quatre générations, on a sept ou huit générations qui ont souvent beaucoup de mal à cohabiter. C'est pour ça que ça nous demande humblement de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut retourner à l'essentiel, qui est la relation humaine, qui est d'accueillir l'autre dans sa diversité, parce qu'on a tous été enfants et on sera tous âgés à un moment donné, et donc c'est ce qui nous rapproche, quoi. Ça devrait nous rapprocher plus que de nous éloigner.
Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a encore des difficultés à se distancer du modèle qui a été celui de siècles. Le monde était construit sur des attitudes faites d'autoritarisme, de pouvoir, de matérialisme individuel, hein, c'est ce que vous nous dites d'ailleurs dans le livre. Et en fait, même si on n'adhère plus complètement à ce système, c'est quand même celui qui régit notre société. Nous sommes encore structurés par la force, par le pouvoir, par le plus fort, par le plus riche, par le plus âgé sur le plus jeune, puis ensuite par celui qui est dans la puissance de réalisation par rapport à celui qui a moins de force. On continue à fonctionner sur les pouvoirs de force à partir de cela. Et il nous faudrait peut-être dépasser ça, mais comment en sortir ? C'est le modèle de notre société, vous êtes d'accord ?
Oui, c'est le modèle de notre société qui montre ses limites. Là, il suffit de regarder n'importe quel journal télévisé pour se rendre compte que ce modèle, d'une façon globale, montre ses limites, aussi bien au niveau de la consommation, de la pollution, du dégât des eaux, etc. Quand on ouvre un journal télévisé, on ne peut se rendre compte que le modèle sur lequel on a fonctionné est à remettre en question. Et ça nous refait remettre en question aussi bien notre façon de produire, notre façon de consommer, notre façon d'échanger, et donc au quotidien, notre façon de vivre avec l'autre. Et cette prise de conscience dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est vraiment dans cette charnière, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de personnes qui se prennent conscience de ce moment de charnière. Il y a beaucoup de solutions locales, hein, pour reprendre le terme de Colin Serrault. Il y a beaucoup de solutions locales dans un désastre global. Et il y a une prise de conscience qui est importante à mes yeux, à ouvrir à la relation parent-enfant. Parce que c'est là que tout se joue. On a beaucoup à transmettre à nos enfants. Et dans ce qu'on a à leur transmettre, on a aussi à les accompagner, à prendre conscience d'un monde sur lequel ils vivent, de façon à ce que ils puissent s'organiser le mieux possible, vivre le plus sereinement possible.
Oui, mais concrètement, le modèle de l'autorité continue à fonctionner entre les parents et les enfants. Le père et la mère ont une autorité qu'ils exercent, à juste titre, jusqu'à un certain point, bien entendu. Mais il y a quelque chose là qui doit être mis en question et on ne sait pas par quel bout le prendre. Regardez les modèles des responsables de nos pays, de nos sociétés, les modèles politiques, hein, les responsables d'entreprises. Ce sont des gens qui véhiculent une image de force et de soumission de l'autre. Il n'y a rien à faire, on n'en sort pas. Nous tous d'ailleurs, franchement.
Bien sûr. L'image de force continue à se développer et elle est nécessaire. Ensuite, ce qui va être important, c'est l'intention que va véhiculer le parent quand il impose son pouvoir. C'est-à-dire qu'on peut imposer son pouvoir à un enfant ou sa puissance à un enfant de 4 ans avec l'intention de le rassurer ou avec l'intention de l'humilier.
Hein, c'est-à-dire ou de le protéger aussi.
Mais le même acte, demander à un enfant de finir son assiette, on peut le faire en disant tu vas voir, c'est moi le plus fort, et comme je suis plus fort, c'est toi qui vas finir ton assiette. Et on peut aussi, par une façon bienveillante, faire en sorte que l'enfant se nourrisse à sa faim. Et dans le même acte, ce qui va faire la différence, c'est notre intention. Et bien souvent, les intentions des parents sont blessantes pour les enfants parce qu'elles ne sont pas animées par un acte d'éducation, mais par une blessure plus ancienne du parent, qui fait que le parent, si lui-même il a souffert dans une relation avec ses propres parents, il va se dire, écoute, moi, il n'y a pas de raison, mon père me forçait à finir mon assiette, il n'y a pas de raison, tu vas finir la sienne.
Mais le parent se dit parfois ça, mais souvent il ne se le dit pas. Et il a réellement une intention peut-être plus positive, même si le comportement n'est pas idéal, c'est de dire, mais c'est bon pour lui qu'il finisse son assiette. C'est un peu court, mais c'est un peu ce qu'on se dit. Donc comment tourner ça ?
Alors, comment tourner ça ? Dans un premier temps, justement, dans le quotidien pour le parent, de se poser la question, c'est-à-dire, si j'interviens avec mon enfant, et c'est important que les parents interviennent régulièrement, mais si j'interviens, la première question, c'est en quoi ça me concerne ? C'est-à-dire, si l'enfant marche sur la moquette blanche avec ses chaussures pleines de boue, ça me concerne parce que j'ai pas envie de passer l'aspirateur, donc c'est important en tant que parent que je me positionne en disant je ne suis pas d'accord pour que tu marches avec des chaussures pleines de boue. Et là, c'est légitime, c'est justifié que le parent intervient. Maintenant, où la question se pose, c'est est-ce que c'est tout aussi légitime si l'enfant a envie de mettre deux chaussettes dépareillées, ou si l'enfant a envie de mettre des couettes sur la tête, ou s'il a envie, etc. Là, la question que doit se poser le parent, c'est en quoi ça me concerne ? Ça, c'est vraiment la première question clé que doit se poser le parent avant d'intervenir auprès de l'enfant, parce que bien souvent les enfants sont traumatisés par des parents qui interviennent toutes les trois phrases, mais pas t'écoute sur la table, et mange pas comme ça, et arrête de faire ça, et les enfants finissent par ne plus savoir de l'intérieur comment se tenir. Et donc ça, c'est des attitudes qui demandent aux parents de lâcher un peu l'enfant, quoi, en fait, hein. Et c'est là que d'un seul coup, le parent développe sa conscience en disant « Mais non, en fait, là, ça me concerne pas, il n'y a pas de souci avec ça, il peut continuer. » Et si par contre, sa sécurité est en danger ou il y a vraiment besoin d'intervenir, là, je vais intervenir de façon ferme. Mmh. Et la deuxième question que le parent peut se poser, après s'être posé en quoi ça me concerne, c'est « Est-ce que ce que fait l'enfant est adapté à son âge ? Est-ce que ce que je lui demande est adapté à son âge ? » C'est-à-dire, un enfant de 3 ans qui va renverser un gros pot de miel, le parent peut se mettre à hurler dessus, mais la question que va poser le parent, c'est est-ce que c'était adapté à l'enfant de prendre avec ses petites mains ce gros pot, par exemple ? Donc, est-ce qu'il mérite de se faire enguirlander pour ça ? Donc, c'est toujours les deux questions qui peuvent servir de balise aux parents. En quoi ça me concerne, avant d'intervenir, en quoi ça me concerne ? Et la deuxième question, est-ce que c'est adapté à l'âge de l'enfant ?
Suppose que l'on inverse notre fonctionnement et plutôt d'être en réaction constante, être ce qu'on appelle
en introspection.
Oui,
tout à fait.
C'est-à-dire, j'agis en conscience parce que c'est vraiment ça que je veux faire. Eh bien, dites donc, c'est pas tellement le genre de question qu'on se pose à toute heure du jour, franchement. On va pas gagner de temps là avec les enfants.
Alors, curieusement, si pour moi on en gagne beaucoup, parce que ça permet aux enfants justement assez rapidement de développer de l'autonomie, de l'indépendance et de la stabilité. Donc vraiment, c'est un investissement. Quand je vois le temps que les parents passent avec des enfants de 14 ans, 15 ans à résoudre des conflits qui émergent parce que pendant 10 ans, ils ont été justement écrasés, je me dis que oui, c'est important pour les parents de passer du temps. Hein, ça, c'est une clé aussi dans la relation parent-enfant, de passer un temps réel, sincère avec chacun de ses enfants, dans une qualité d'écoute et de compréhension de l'enfant.
Quand on dit, après tout, j'ai pas beaucoup de temps pour mon enfant, je travaille beaucoup, on a besoin de 2 salaires, et puis sinon on pourra pas partir en vacances, ou on pourra pas changer le téléviseur ou la voiture, on dit ce qui compte c'est la qualité. Vous y croyez, vous, à cette histoire d'opposition quantité-qualité ? J'ai pas beaucoup de temps, mais ce qui est important, voilà.
Oui, j'y crois beaucoup parce que, justement, les parents aujourd'hui travaillent, et c'est légitime, et c'est bien pour leur équilibre, et c'est nécessaire. Et on peut... L'enfant a besoin de 2 choses. Il a besoin d'une qualité de relation et il a besoin d'un suivi. Et j'écris dans le livre, si on pouvait passer, ne serait-ce que 5 minutes par jour, d'une réelle écoute de nos enfants, on pourrait déjà être assuré qu'il n'y ait pas de crise majeure dans l'adolescence. 5 minutes par jour de réelle écoute. 5 minutes pour vraiment écouter nos enfants. Mmh. C'est-à-dire, on va mettre de côté toutes les fois où on dit « j'ai pas le temps, je fais la vaisselle, j'ai pas le temps, je fais ceci ». Est-ce que je peux juste 5 minutes me poser, regarder l'enfant dans les yeux et écouter ce qu'il a à me dire ? Et écouter avec tout mon corps, écouter avec mes sensations, me mettre complètement dans une écoute active pour permettre, sans solutionner, sans ramener à soi, sans minimiser, sans exagérer, simplement écouter l'enfant, permettre à l'enfant de se dire. Et à mes yeux, ne serait-ce que 5 minutes par jour, dans une régularité, ça permet vraiment de créer un lien fort et puissant avec les enfants.
Il faudrait peut-être que le parent ait pris 5 minutes pour lui juste avant.
Oui, ça je confirme.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Très très bien.
Arnaud Rioux, que penser de cette fameuse maxime « les enfants doivent faire l'expérience de la frustration » on dit il faut que pour grandir, l'enfant a besoin d'être frustré. Et la vie, de toute façon, est faite de frustration, donc autant y aller carrément et lui apprendre ça.
De toute façon, quand on traverse l'existence, on est obligé de faire l'expérience de la frustration. Quoi qu'il arrive, qu'on le veuille ou non, la frustration est partout. Donc, on n'a pas, pour moi, à en rajouter en tant que parent, en disant « tiens, je vais te priver de télé, comme ça tu vas faire l'expérience de la frustration ». En se disant que la frustration a quelque chose de positif, oui, la frustration nous permet de nous dépasser. Mais la frustration, naturellement, elle est partout dans le quotidien. Et le rôle du parent, pour moi, est d'accompagner l'enfant à dépasser cette frustration. Pour développer, à travers la frustration, l'enfant va développer la patience, va développer la persévérance, va développer d'autres qualités, l'adaptation, etc. Donc il peut développer plein de qualités dès lors que le parent ne le prend pas comme une punition, parce que là aussi, c'est la vie que l'enfant va créer à partir de son regard. Quelque chose qu'on n'a pas, ça peut être vécu comme un échec, hein, et ça peut être aussi vécu comme une occasion de développer d'autres qualités. Et ça, le parent peut amener l'enfant à changer son regard sur la situation. Ça, c'est vraiment important.
C'est ça, éduquer, en fait. Hein,
oui, c'est vraiment vous, ça, c'est éduquer. Ça, c'est permettre à l'enfant de changer de regard sur une situation. Mm-hmm. Hein, dernièrement, ma fille, elle faisait un jeu comme ça, et puis elle a renversé son puzzle, et il y avait tout à recommencer, elle était furax. Mm-hmm. Et bon, bien évidemment qu'on était là, on aurait pu balayer ça d'un coup, et je l'accompagnais à recommencer le puzzle, et très vite, je lui ai montré comment elle était, par cet exercice, en train de développer des qualités de patience, des qualités de persévérance qui vont lui resservir ailleurs que dans ce puzzle. Oui, ça lui a plu beaucoup. C'est la première chose qu'elle a dit à sa mère quand elle l'a revue le soir. Cet après-midi, j'ai développé ma patience. Parce que le rôle du parent, et c'est pour ça que j'ai mis en sous-titre « parent conscient, enfant confiant », parce que le rôle du parent, c'est justement d'être dans une conscience, une observation, pour permettre à l'enfant de changer de regard sur une situation.
Le livre est dense, il y a beaucoup de sujets, évidemment, on ne peut pas tout aborder, mais j'avais envie de parler de quelque chose qui est dit et redit par le monde des adultes, mais on l'entend en politique. C'est « ah là là, il n'y a plus de valeurs, les parents ne savent plus communiquer des valeurs, la société n'a plus de valeurs et les enfants et les adolescents, les jeunes adultes se conduisent mal, ils sont violents parce qu'il n'y a plus de valeurs ». Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ça? Est-ce que c'est vrai?
Et comme souvent il n'y a plus de valeurs, les parents face à ça se disent « il faut absolument qu'on inculque des valeurs à nos enfants et on va donc leur inculquer ». Les parents sont d'accord sur les valeurs à inculquer, c'est-à-dire on va leur inculquer la générosité, la bonté, l'écoute de l'autre, etc. Et ils vont
de force.
De force, c'est ça, beaucoup d'énergie pour imposer des valeurs à l'enfant. Or, il n'y a qu'une façon de transmettre des valeurs, c'est par l'exemple. Si l'exemple n'est pas la meilleure façon d'éduquer, c'est la seule. C'est-à-dire, c'est par, en incarnant les valeurs nous-mêmes en tant que parents, que les enfants vont vouloir nous imiter. Parce que voir quelqu'un de généreux, c'est beau à voir et on est attiré par ça. Naturellement, les enfants sont attirés par ça. Donc on n'a pas besoin de vouloir imposer à nos enfants d'être généreux et de prêter ses jouets. Non, si nos enfants nous voient nous-mêmes développer la générosité au quotidien, ils vont vouloir nous imiter parce qu'ils vont se rendre compte que c'est très goûteux en fait de développer ces valeurs-là. Donc le parent en fait en permanence transmet des valeurs, mais il ne transmet pas des valeurs que quand il fait acte d'éducation. Il transmet des valeurs quand il y a un colporteur qui frappe à la porte et la façon dont il va lui répondre, ou la façon dont l'homme parle à sa femme ou la femme à son mari, c'est une façon de transmettre une valeur et l'enfant. Et là, il observe, il ne rate rien de la façon dont son père parle à sa mère, de la façon dont son père parle au garagiste, de la façon dont sa mère promène le chien ou son père promène le chat, etc. L'enfant va être très attentif à ça. Et Dès lors qu'il va voir quelque chose qui rend heureux le parent, il va vouloir l'imiter. Et ce
Alors
qui.
là, évidemment, cet exercice de congruence, hein, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, ça c'est extrêmement difficile, franchement. Et d'ailleurs, les modèles, reprenons les modèles aussi qu'on voit se déverser à la télévision, c'est vraiment des anti-modèles, puisqu'on voit de la violence, des rapports de force, des insultes. Je grossis à peine le trait, il y a aussi des belles choses à la télévision, mais quand même, ce que
Oui.
nous montre la société, comme par hasard, c'est ce qui n'est pas terrible.
C'est pour ça qu'il faut beaucoup de courage pour moi pour éduquer les enfants dans
D'abord, est-ce
cette.
qu'il faut
Ah,
fermer la télé?
moi, ça fait 10 ans que je l'ai laissé sur le trottoir tellement je trouvais ça parasitaire dans la relation, donc je me suis débarrassé de cet objet
Ah,
et ça me fait
donc elle va
beaucoup de
voir la
vacances.
télé chez les copines, c'est ça?
Non, elle n'en éprouve plus le besoin en fait. Elle n'en éprouve plus le besoin. De temps en temps, elle la regarde quand elle est chez une copine, mais sinon, non. Et je ne lui ai pas interdit. Pendant longtemps, j'avais une télé à la cave, et quand elle voulait la regarder à la télé, je la sortais. Je l'ai juste amenée à prendre conscience de l'état dans lequel on se trouve quand on a regardé 2 heures la télé, qui est un état de passivité. Bon, j'ai la chance d'habiter à la campagne, mais dès lors que je lui proposais, elle pouvait regarder la télé, dès lors que je lui proposais d'aller faire une cabane dans les bois, il n'y a pas photo, immédiatement. Donc la télé a été très pratique pour les parents. Qui laissaient leurs enfants des heures devant la télé, ça leur permettait de faire autre chose, mais il y a aussi beaucoup d'effets secondaires. Et les effets secondaires, bah, c'est que l'enfant entretient une relation virtuelle au monde. Ça, c'est l'un des effets secondaires et que les parents payent cher souvent. Ouais.
Et pour revenir donc au comportement, je veux dire, c'est quand même extrêmement exigeant hein, de se dire que la part la plus importante de l'éducation, c'est l'effet miroir, quoi, c'est ce que l'on présente à
Oui.
nos enfants.
Oui, c'est très exigeant. C'est pour ça que c'est important, ça me semble important pour que les parents trouvent le ressort et le courage nécessaire de vraiment se dire que c'est comme dans la relation de couple, notre but à chacun en tant qu'être humain, c'est d'évoluer, d'en apprendre plus sur nous, de nous ouvrir, de nous adapter davantage. Et pour ça, il y a deux relations qui nous aident vraiment beaucoup à grandir. Le premier, c'est la relation de couple. Et la seconde, c'est la relation avec nos enfants. Ce sont vraiment les relations qui nous aident le plus à développer notre tolérance, notre ouverture, notre écoute de l'autre, notre compréhension, notre non-jugement. Et ces relations sont vraiment des relations privilégiées. C'est pour ça que la relation en tant que parent, de faire ce choix d'avoir des enfants, c'est vraiment une voie privilégiée pour accéder jusqu'au cœur de soi-même. Encore faut-il avoir cette envie de se rapprocher de soi-même.
On a parfois peur hein, d'être jugé par nos enfants. Secrètement, beaucoup de parents ont peur de cela. Est-ce que c'est une peur que vous avez parfois?
On le sera de toute façon jugé. Et la seule question qu'on peut se poser, c'est à la fin de sa journée, moi c'est ce que je fais en tout cas, je pose la main sur mon cœur, je me regarde dans la glace et je dis, est-ce que j'ai fait de mon mieux? Et si je peux répondre oui, j'ai fait de mon mieux, alors j'ai la conscience tranquille. Même si, comme d'autres parents, je fais des erreurs, je me trompe et j'apprends justement de mes échecs. Mais la question, c'est vraiment, est-ce que j'ai fait de mon mieux? Et ça,
Mais
c'est une question qui va nous aider vraiment.
quand vous découvrez, et ça vous arrive, j'imagine, comme nous tous souvent, que vous avez fait une erreur, vous n'avez pas été à la hauteur, ou vous avez peut-être triché en répondant, est-ce que vous lui dites, est-ce que vous reconnaissez vos doutes et vos difficultés? Parce que les parents ont l'impression qu'ils doivent symboliser quelque chose de ferme, de sûr, pour le bien des enfants d'ailleurs.
Et c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'enfant d'un seul coup regarde son parent en se disant c'est qui cet être divin que je ne pourrai jamais atteindre. Alors que, en tout cas pour moi, dès que je montre mes faiblesses, mes doutes, ça crée de la confiance de son côté. Elle se sent encore plus sécurisée. Hein, par exemple, j'ai pas le sens de l'orientation du tout. Moi, je gare ma voiture, 3 pâtés de maison après, je sais plus où je l'ai garée. Bon, je m'en amuse et je sais que du coup, quand je me promène avec ma fille, ça lui permet à elle de développer son sens de l'orientation à elle et elle s'appuie beaucoup là-dessus. Elle me charrie, elle me blague, mais c'est pas du tout une faiblesse pour un parent de mettre à jour ce qu'il considère comme des faiblesses. Au contraire, c'est une grande force.
Parce qu'au fond, il s'agit d'authenticité. Vous soulignez ça aussi dans le livre.
Oui,
Vous
oui,
avez
oui.
toute une réflexion sur la notion d'authenticité. Qu'est-ce que c'est dans votre esprit, dans la relation parent-enfant?
Un jour, j'ai fait un atelier avec des enfants et j'ai posé la question à des enfants de 8 à 10 ans à peu près, quelle serait la qualité que vous voudriez le plus développer, le pouvoir, le super pouvoir que vous voudriez développer? Et j'ai un enfant, un petit Mathieu qui avait 7 ans, je me souviens, qui lui a levé la main en disant, moi, ce que j'aimerais le plus développer, c'est de me faire ami avec mes faiblesses. Et là, je l'ai regardé, je suis tombé sur les fesses, hein, tellement je trouvais de sagesse dans cette réponse. Être ami avec ses faiblesses, c'est-à-dire ne plus vivre séparé avec les deux parties de soi. Et quand on en arrive là, c'est-à-dire à aimer autant ce qu'on appelle ses points forts que ses points faibles, pour moi, oui, on rentre dans une forme de sagesse, ou en tout cas de bien-être intérieur et d'authenticité, c'est-à-dire qu'on peut mettre à jour aussi bien ses points forts que ses points faibles. Oui, l'authenticité naît de ça.
Beaucoup de choses dans ce livre encore, Arnaud Rioux. On sent que vous avez mis du cœur, de l'expérience, vos doutes, vos questions. Ça se lit quand même comme un roman très humaniste. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à ces questions. Au nom de l'enfant, parent conscient, enfant confiant, c'est le sous-titre de l'ouvrage que vous venez de sortir aux éditions de l'Homme. Merci à vous.
Merci.